Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Tous différents, tous égaux. Quand la littérature jeunesse défend des valeurs. Vous allez entendre les réactions à cette grande question de Victor Dixen à mon extrême gauche. Excusez-moi de l'emploi de mot. Donc, écrivain, le cas Jack Sparks.
C'est pas bien, toi.
Qui fut. Oui, mais en fait, n'oubliez pas que c'est de la salle, hein. Donc il est en fait à l'extrême droite.
Tout est ambivalent.
Le cas Jack Sparks, qui fut Grand Prix d'Imaginaire en 2010, je crois. 4 tomes, Été mutant, automne traqué, hiver nucléaire et printemps humain. Et puis Nathalie, le gendre, qui a déjà écrit pas mal, hein, pour la jeunesse, etc. Et qui, bon, on va parler des trois derniers, Imago, Vivre et Libre, qui sont des petits livres pour les plus petits, pour les plus jeunes, tous chez Syros. À ma droite, Jean-Luc Marcastel, qui a écrit toute une saga Franquia, une uchronie de guerre en France, avec des elfes, des orques, des nains, en 1940, je crois, 40-41, pendant la guerre. Et qui vient de sortir... la geste d'Alban, bien que ce ne soit pas celui qui est là, mais c'est le dernier. L'enfant monstre, premier tome de cette série. Et puis Eric Lone, qui il a écrit déjà beaucoup, il a été traduit, 26 langues quand même. Pas mal, hein. Et bon, là on a mis en avant Phénomène, et.
Comme association.
Je ne vois pas ici, hein, comme association. Voilà. Eh bien, on va voir d'abord défendre des valeurs. Moi, je voulais d'abord savoir de la part de ces écrivains, qu'est-ce que ça veut dire défendre des valeurs? Alors, Eric, qui déteste ce genre d'exercice, je vais commencer par lui, s'il veut bien.
Défendre des valeurs. Est-ce qu'on défend des valeurs quand on écrit pour la jeunesse? Je ne sais pas. On commence par écrire une histoire et il se trouve qu'au cours de cette histoire, il y a des valeurs qui entrent en jeu. Moi, je fais du basique, c'est-à-dire que je m'en tiens à des valeurs qui me semblent intemporel, universel et de bon sens. Par exemple, il vaut mieux être courageux que lâche, il vaut mieux être loyal à ses amis plutôt que les trahir, et ainsi de suite. Voilà, c'est une défense de valeur.
Victor.
Moi je suis un peu comme Eric, j'ai pas le projet de défendre des valeurs quand je commence à écrire une histoire. C'est au fur et à mesure des situations, au fur et à mesure des difficultés qui sont rencontrées par les personnages que je me pose moi-même des questions, j'ai des choix à faire avec eux, et c'est là que la question morale entre en jeu et que la question des valeurs entre en jeu également. Et je me rends compte au fur et à mesure de l'écriture de quelles sont mes valeurs, sans vouloir forcément en faire le centre du livre, de l'histoire que je raconte.
Nathalie, c'est la même chose? J'ai l'impression que tes histoires sont plus élaborées, non pas en matière de scénario, mais que tu penses avant à défendre quelque chose plutôt que de raconter une histoire au départ, et que tu appliques une histoire sur la valeur que tu as envie de défendre.
Je ne sais pas si je défends des valeurs. Enfin, pour moi, elles sont à moi, ces valeurs-là. Donc, évidemment, elles transpirent dans l'écriture. On va dire que je ne défends pas des valeurs, c'est des valeurs qui me défendent. Je préfère dire ça comme ça. Mais c'est vrai que voilà, pour moi, il y a plusieurs intérêts, enfin, plusieurs valeurs qui sont en moi et qui transpirent et qu'on retrouve immanquablement dans tous mes bouquins, que ce soit l'horreur des injustices, que ce soit, je ne sais pas, le respect. Enfin, pour moi, c'est normal. Donc ben, voilà, ça coule tout seul. Quoi. C'est pas une intention directe, c'est normal. C'est moi.
Jean-Luc?
Je crois que je n'ai pas forcément me démarquer de mes collègues qui sont ici, dans la mesure où on écrit une histoire, et puis voilà, après ça les choses s'imposent d'elles-mêmes. Il se trouve effectivement que moi, quand j'écris mon histoire, j'ai aussi plus envie de défendre des valeurs de courage, d'abnégation, d'amitié, d'amour, plutôt que de haine, de rejet de l'autre, ou ce genre de discours. Donc petit à petit, au fur et à mesure de l'histoire, il s'impose, se développe, et quand on place les personnages dans des situations et qu'on essaie de... et qu'après ça, on va les faire réagir, il se trouve que, moi en tout cas en tant que personne, la manière dont elles réagissent obéissent plutôt à ces lois-là plutôt qu'aux autres, on va dire. Enfin, ces lois, non, c'est tendance.
Dans le titre, il est marqué « Quand la littérature jeunesse défend des valeurs ?» Ça veut dire qu'il y a de la littérature jeunesse qui n'en défend pas ?
Alors là, c'est vache une question, parce qu'on ne peut pas tout lire, donc nous, ouais, on les défend, mais on ne sait pas.
Moi, ce dont j'ai l'impression, en tout cas, je parle de mon expérience personnelle avec mes personnages, parfois, j'ai l'impression de ne pas connaître a priori quelles sont leurs valeurs, quelle est leur manière de réagir. Ils me surprennent parfois eux-mêmes, hein, ils ne font pas toujours les bons choix, ils s'en rendent compte après coup. Et c'est là que la question de la valeur, à mon avis, devient intéressante. C'est quand elle n'est pas imposée, donnée a priori, quand on ne s'attend pas forcément aux choix que vont faire les personnages, mais qu'il y a un doute, il y a la possibilité de se tromper. Moi, c'est ça qui m'intéresse en tant qu'auteur, quand je vois évoluer mes personnages et qui me surprennent moi-même.
Oui, c'est également la problématique de l'adolescent. L'adolescent, il a il porte des valeurs selon les situations dans lesquelles il se trouve et il peine parfois à les hiérarchiser. Le personnage Jasper ne sait pas trop qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est rester avec ses amis, par exemple, parce qu'il leur a promis de fêter leur premier concert, ou se précipiter après une fille. Voilà. Le choix est très délicat. Bon, là, en l'occurrence, la fille en question, il a l'impression qu'elle est en danger, donc il se précipite à son secours, mais est-ce qu'il ne se ment pas à lui-même, etc. En tout cas, ça le plonge dans des abîmes de réflexion et il ne se sent pas forcément bien. Voilà, donc il est confronté à des choix et puis c'est de vivre ces choix, c'est de vivre ces expériences qui vont faire émerger les choses essentielles, les choses vraiment importantes.
Jean-Luc ?
Alors moi, tout à l'heure, tu parlais de Alban, que je sors actuellement, qui se déroule un peu dans le même univers que Galou, une espèce de France médiévale alternative. Donc Alban, lui, est un personnage qui porte en permanence un masque parce qu'il il a été touché par le pouvoir d'un dieu qui s'appelle la Brèche, qui est le pouvoir métamorphique. Et donc son père l'oblige à porter un masque tout le temps parce qu'il a un visage marqué, difforme. Il a un bras qui est énorme, disproportionné par rapport à l'autre. Et donc un peu tout le chemin du personnage va être à apprendre à lui justement à apprivoiser le regard des autres, à enlever son masque, à se montrer tel qu'il est. Mais aussi quelque part, c'est de montrer que chacun, il se rend compte que les autres par contre portent chacun aussi un masque, que chaque personne porte un masque et de soi dessous, bien moins belle qu'elle ne veut le paraître. Voilà. Et bien plus monstrueuse des fois que lui. Donc lui, par contre, tout son chemin, ça va être d'apprendre à enlever son masque pour pouvoir enfin s'ouvrir aux autres. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme des valeurs ? Parce que ce que je voulais pas poser, c'est une question de quelle valeur on parle. Est-ce que c'est la valeur d'une société, la valeur d'un individu ? Voilà, quand on dit la littérature jeunesse défend les valeurs, donc de quelle valeur s'agit-il ?
Moi, je n'en sais rien. Moi, je me contente de modérer mes réflexions à ce sujet, dont le titre m'a été imposé. Mais ça dépend de chacun, ça, les valeurs, je suppose.
C'est vrai que ce sont, et surtout à l'adolescence, hein, pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Luc, ce personnage qui porte un masque pour ne pas affronter le regard des autres, c'est peut-être aussi pour ne pas affronter les valeurs des autres. Quelles sont, comment définit-on ses propres valeurs ? Elles surgissent par l'expérience. Et c'est ce que disait Eric, c'est au fur et à mesure de l'expérience, des erreurs qu'on peut faire, qu'on définit les contours des valeurs qui sont les siennes, je pense.
Vous écrivez pour des collections jeunesse. Est-ce que les éditeurs vous obligent à suivre un cahier des charges, Nathalie ?
Tu poses la question à moi ? Non, il est très difficile de m'imposer des choses. Le seul cahier des charges, à l'heure, qu'on pourrait m'imposer, c'est si c'est une commande. C'est ce que j'ai eu, là. J'ai eu le cas dernièrement. Il y a une nouvelle collection qui s'est montée chez Flammarion. principalement basé sur les émotions, donc on m'a imposé un cahier des charges. J'ai vraiment eu du mal à m'y faire parce que voilà, parce que c'est pas moi, ça coule pas tout seul, c'est un cadre bien particulier, j'ai horreur des cadres, donc c'est un exercice qui est extrêmement difficile, donc je vais essayer de faire, mais après au niveau des valeurs, au niveau de ce que j'ai à dire, non, on m'impose rien.
Ça vous est déjà arrivé d'avoir des éditeurs qui en fin de compte refusent l'un ou l'autre personnage parce qu'ils ne correspondent pas à certains stéréotypes?
Non, non, pour moi ça m'est jamais arrivé. J'ai eu la chance d'être chez un éditeur ouvert qui ne se gêne pas pour faire des remarques et des propositions d'amélioration sur la forme, mais qui reste très respectueux du fond.
Oui.
Moi aussi, et puis, de toute façon je pense qu'un éditeur, à partir du moment où il l'obligeait, peut-être certains l'espoir, hein, un auteur à changer son texte dans le fond, moi je sais qu'en tant qu'auteur, si on commençait à me changer le fond du livre, après j'écrirais mais sans passion, sans vraiment, sachant qu'on va tout me casser derrière, hein, donc je pense que de toute façon le bouquin serait pas bien bon à la sortie, de toute manière.
Et toi ?
Non, moi j'ai pas non plus été confronté à ce type de censure de la part d'éditeurs sur le fond, les remarques étaient plus formelles, effectivement, de construction, du style, mais pas sur le fond de l'histoire qui est racontée.
Le danger n'est-il pas, si vous défendez, parce que c'est vous, des valeurs, de tomber dans le prêchi-prêchat, Eric ?
Non. Non, parce que tout simplement, le garde-fou naturel de cette tendance éventuelle, c'est la priorité donnée à l'histoire. À partir du moment où on raconte une histoire, si d'un seul coup on fait une pause et puis on part en digression pour je sais pas, expliciter des valeurs ou faire un discours, enfin avoir un style de discours, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Les valeurs sont, comme on a eu l'occasion de le dire déjà tout à l'heure, sont incluses dans l'histoire, se dégagent d'elles-mêmes, en fait, sans, parfois même à notre insu, parce que c'est nous qui écrivons et qu'on les porte, comme disait Nathalie, qu'on les porte en nous. Mais non, le prêchi-prêchat, je pense que c'est tout de suite sanctionné. D'ailleurs, même l'éditeur, peut-être, à ce moment-là, va faire une remarque, non pas sur le fond, éventuellement, du prêchat, mais sur la forme, en disant, non, mais ton truc, ça casse le rythme, ça n'a rien à faire là, ça, voilà.
Nathalie ?
Je sais pas. Prêchi, prêchat, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, après, c'est vrai que j'ai une fâcheuse tendance, et non, je sais pas si elle est fâcheuse, je veux dire quand même qu'elle est bonne, allez. Les thèmes que j'aborde sont tellement durs que pour moi il est impensable par exemple de tomber dans la mièvrerie ou de... c'est pas possible, il faut quand même que je mette de l'espoir, il faut que je mette des émotions, voilà, il y a une bataille derrière, mais tomber dans le prêchi-prêchat, c'est déjà ça je peux pas, foncièrement c'est pas moi. Pour moi le prêchi-prêchat c'est comme si c'est tiède, c'est de l'eau tiède, moi c'est soit froid soit chaud,
voilà. Et toi?
Oui, moi non, j'ai pas non plus l'impression de vouloir développer une thèse. Hein. Le roman à thèse, pour moi, c'est l'inverse du roman d'évasion, roman narratif qu'on essaie de faire, les histoires qu'on veut raconter. Donc, et puis, une fois encore, ce qui m'intéresse, c'est l'errance, c'est le doute, c'est le fait de se tromper. J'aime bien explorer les sentiments qui sont propres à l'adolescence, comme la jalousie, qui sont exacerbés, qui sont l'occasion peut-être de construire ensuite par ces erreurs et les valeurs qui sont les siennes, comme je disais. Mais j'ai pas de volonté, en tout cas moralisatrice, exprimée quand j'aborde un texte, quand j'écris une histoire.
C'est le mot que j'allais employer, évidemment, parce que ce matin, il y a eu une autre séance du genre où on parlait de la littérature jeunesse racontée ou faire la morale. Si j'entends bien, donc pas question de faire la morale, Jean-Luc.
Non, je pense pas. La première chose, c'est déjà de raconter l'histoire, comme tous les romans. Après, les thèmes se dégagent de mieux, mais justement, même si on doit, si l'histoire véhicule des valeurs, ça se fait à travers une histoire et d'une manière qui, justement, va être soit inconsciente pour nous, soit compris dans l'histoire. Ça ne doit pas être quelque chose qui est déconnecté et qui doit être assumé comme un coup de massue. Tenez, voilà la leçon. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'histoire, c'est ça. Ou alors, si vraiment on veut faire passer un message de l'histoire, il faut qu'il passe voilà, par la narration, comme tu disais, dans l'histoire elle-même.
Mais c'est sans doute la grande, pour remonter sur ce que tu dis, c'est la grande différence entre la littérature jeunesse d'aujourd'hui et ce qu'elle était dans le passé, effectivement, avec cette dimension moralisatrice et cette fameuse morale qu'on avait à la fin des contes, à la fin des fables. Moi, je me sers beaucoup du matériau des contes traditionnels pour essayer de le moderniser. C'est vrai, quand on lit Perrault, ça se termine systématiquement par la morale. Si vous n'avez pas compris ce qu'il fallait comprendre, on vous remet à la fin pour être sûr que le message est bien passé. Je pense qu'on a tourné cette page aujourd'hui, on fait plus confiance aux lecteurs, même si ce sont des jeunes lecteurs, pour faire leur choix et retenir dans un texte ce qui leur convient par rapport à leur personnalité.
Ouais, on a déjà les jeunes lecteurs, on essaie de ne pas les prendre pour des cons.
Voilà,
ça revient un peu pas, ça.
Voilà.
Et puis on sait que le lecteur, si on lui dit comme ça, tiens, c'est ça qu'il faut que tu retiennes, ça va l'agacer.
Voilà. Et puis... après, nos personnages, c'est juste le reflet de l'humain, quoi. Donc il y a différents humains, mais tout à fait, enfin, mais totalement, comment dire, totalement différents les uns des autres. Donc voilà, c'est des petits reflets comme ça qui passent, mais c'est pas forcément pour une morale. Enfin, c'est comme ça que je le prends.
Dans vos romans, est-ce que vous pouvez tout vous permettre? Je veux dire, même ce qui pourrait sortir de ce qui est, je mets ça entre guillemets, convenable pour les jeunes lecteurs.
C'est quoi convenable?
C'est pour ça que je mets entre guillemets ce que certaines ligues de morale pourraient trouver convenable.
Ligues de morale ou certains adultes. Qui auraient très très peur, par exemple, de mettre certains livres entre les mains de leur enfant parce que ça va les traumatiser, alors qu'il y a la télé, il y a Internet, il y a des jeux, il y a des trucs qui sont abominables et... Pardon. Faut pas me lancer là-dessus.
Tu peux continuer, il n'y a aucun problème. Tu as un auditoire.
Tout dire. Voilà, moi j'ai pas envie de me censurer. J'ai déjà été censurée une fois. Je me suis fait taper sur les doigts. Je m'en mords toujours les doigts aujourd'hui. Je ne toucherai plus, enfin, jusqu'à je sais pas quand, mais pour l'instant je touche plus à la religion, par exemple. Je dis des choses et parce qu'elles sont vraies, parce qu'elles existent et parce que voilà, parce qu'on ne prend pas les ados pour des cons.
Il y a quand même des limites, alors.
C'est quoi les limites? Quelles limites?
Mais tu parles de la religion.
Ah non, c'est parce que là, j'ai trinqué. J'ai trinqué pendant un bon moment, donc je vais attendre un petit peu, je vais attendre que ça se calme. C'est tout. Sinon, je continuerai avec plaisir.
Victor, tu te sens sans limite dans ce que tu écris?
J'ai pas encore été... heureusement, j'ai pas encore été confronté à une censure qui me frustre. Donc pour l'instant, j'aurais envie de dire que j'ai exercé ma créativité dans le cadre des limites qui étaient les miennes sans avoir à les dépasser, sans être frustré. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est sans limite. Et peut-être que mes limites sont restreintes, je sais pas.
J'aimerais bien vous répondre à la même question. Ouais.
Moi, je pense qu'il y a forcément des limites et que de nous-mêmes, quand on écrit une histoire, on inclut, de manière consciente ou inconsciente, les limites et ce qu'on peut écrire ou ce qu'on ne peut pas écrire, parce que de toute manière, on ne sera pas publié si ces limites sont franchies. Je pense par exemple à la sexualité dans les ouvrages jeunesse, etc. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il est pertinent, intéressant, de dans quelle mesure franchir ses limites, pourquoi? Est-ce qu'il y a une vraie raison? Est-ce que c'est seulement pour choquer? Est-ce que c'est seulement pour se dire on franchit une limite? Est-ce que les lecteurs, le lecteur de 11 ans, 12 ans, 13 ans, pas intéressé par... il n'y a pas des choses plus importantes que ça dans ce qu'on va écrire? Voilà, après c'est... Mais je pense qu'il y a des limites, évidemment. Et que si on les franchit pour une raison ou pour une autre, de toute manière, on s'en rend compte parce qu'on ne sera pas publié. Mais je pense que c'est pareil, à mon avis, c'est pareil en adulte aussi.
Moi, je rejoins Eric là-dessus en disant que de toute manière, il faut être honnête, il y a certaines choses qu'on ne peut pas se permettre si on est édité chez les éditeurs qui font entre guillemets de la jeunesse. Ceci dit, ça n'empêche pas d'aborder certains thèmes. Moi, je pense au Gagou, par exemple, qui est là, où il est question de la part de l'animalité qui est en nous. Alors, évidemment, un peu comme dans tous les contes, d'ailleurs, on parlait d'ailleurs des Pont de Pérou. En fait, on ne parle que de ça, on tourne autour, mais on prend par le filtre du symbole, voilà, en cachant ça derrière autre chose. Je veux dire, moi, le Galou, c'est la part animale de nous qui se réveille. À un moment donné, par exemple, le héros se trouve, l'héroïne est inconsciente, il est fou, et puis il veut la protéger, mais il est en galou, ou même loup. Et donc, il a la tentation de mordre dans cette chair qui est là devant lui. Quelque part, voilà, symboliquement, mordre dans cette chair de l'héroïne, voilà, c'est consommer un peu l'acte sexuel, quelque part. Il ne le fait pas, finalement, il est plus fort que sa part animale, donc il la sauve. Donc c'est vrai qu'on en parle quelque part. Oui, on en parle, mais on peut le faire, mais de manière détournée. Pas comme ça, cash, on ne va pas rentrer dedans, c'est pas possible, quoi.
Mais une fois encore, tous les contes, hein, comme tu le mentionnes, étaient des mises en garde par l'intermédiaire du symbole, de l'allégorie, contre les dangers, le petit chaperon rouge.
Pas les étrangers dans la forêt.
Voilà, donc les auteurs sont toujours passés par le symbole pour exprimer des choses qui n'auraient peut-être pas été recevables si on les avait décrites plus crûment.
On peut décrire une relation sexuelle, on peut décrire un acte sexuel sans que ce soit cru pour les adolescents. C'est écrire
ah, aussi.
Il n'y a aucun problème. Ah bah ouais, non mais voilà, après tout dépend aussi de la personne qui écrit.
Et tout dépend de ton éditeur.
Voilà, c'est tout fou de l'éditeur. Mais tout dépend de la personne qui l'écrit. Je veux dire, voilà, l'acte sexuel c'est beau, tu considères cet acte comme beau. Tu ne vas pas l'écrire crûment, tu vas l'écrire voilà, le plus simplement possible, mais le plus sensuellement possible. Après, tout dépend des personnes qui l'écrivent, ça. C'est, voilà. Mais ce n'est pas du porno que tu as écrit.
Non,
voilà.
On parlait de Francky tout à l'heure, mais bon, là, ça ne s'adresse pas à des jeunes, si tu veux. Il y a une scène d'amour, qui va durer 2 pages, et qui est une vraie scène d'amour, parce que c'est la conclusion des rapports entre 2 personnages qui, depuis le début, bah, se cherchent, voilà, et forcément, c'est une belle conclusion. Donc, je ne pouvais pas non plus faire. Au contraire, cette scène-là ne pouvait pas être enlevée parce qu'on ne peut pas faire l'impasse de ça dans cette relation-là. Mais ce n'est pas un ouvrage jeunesse, par contre.
Ah, voilà, ça moi, j'ai osé.
C'est peut-être aussi le terme littérature jeunesse qui, finalement, est un peu trop vaste aussi par rapport au nombre, à la diversité des publics auxquels on s'adresse. D'une année sur l'autre, les sensibilités, les expériences qu'on vit étant enfant puis adolescent sont très différentes. Donc, aujourd'hui, on parle de jeunes adultes pour le segment le plus âgé, on va dire, de la littérature jeunesse. C'est sûr que ces thèmes-là peuvent et doivent être abordés, parce que ça fait partie de l'expérience de la découverte de la sexualité quand on est jeune adulte. Pour des lecteurs plus jeunes, ça s'impose moins, c'est sûr.
Moi, j'ai écrit une très belle scène d'amour dans Le Livre des Étoiles. Mon personnage principal, Guillemot, a 12 ans, est dans une salle de cinéma, donc il fait sombre, il est à côté d'une fille qui s'appelle Ambre, et c'est elle qui est très attirée par lui, et pendant la séance, elle pose sa main sur la sienne, et ça, il retient rien du film, il n'entend que son cœur battre. Voilà, à 12 ans, c'est très fort, c'est suffisant, c'est...
Ça correspond à l'expérience, effectivement, qu'on a à cet âge-là. Donc il faut que ça résonne à un moment avec le vécu du lecteur. Hein. Je pense que c'est ça la vérité, et la limite, elle se trouve là, finalement.
Et pour pouvoir faire ça, ça veut dire que vous êtes toujours des enfants?
On essaye de garder cette part, de la cultiver, effectivement, je pense, tous autant que nous sommes. Hein.
Je dois avoir 8 ans, Des fois,
j'en ai 15. Ou 2. Parce que pour pouvoir bien comprendre ce qu'on peut faire ou ce qu'on a envie de faire, il faut garder une âme qui soit proche de vos lecteurs.
Oui, sans doute. Moi, quand j'écris et que je mets en scène des enfants ou des adolescents, j'essaye simplement de me rappeler, de me remettre dans l'ado ou l'enfant que j'étais. Et finalement, c'est... Pas très bon en arrière. Voilà, mais je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on est comme des adultes qui écrivons des ouvrages jeunesse dans lesquels il y a des enfants. Et c'est pour ça que l'exercice n'est pas si facile. Il y a pas mal d'auteurs adultes qui s'imaginent qu'écrire pour les jeunes c'est plus facile et tout. Non, parce qu'il ne faut pas mettre ses préoccupations d'adultes dans la bouche d'enfant, il ne faut pas. Etc. C'est vraiment, il faut être capable de se garder son âme d'enfant, de se rappeler de façon avec beaucoup de proximité l'enfant ou l'adolescent qu'on a été pour tomber juste. Je crois que c'est c'est le mot, que ce soit au niveau des valeurs, que ce soit à ce niveau-là, il faut que ça tombe juste, il ne faut pas que ça soit en décalé, qu'on retrouve dans le comportement d'enfant, dans le discours d'enfant, des attitudes ou des mots tenus par des adultes. Il faut vraiment être vrai, être juste.
Pour revenir sur ce qu'on disait au début, c'est là qu'un texte moralisateur échouerait, parce que ça serait l'adulte, finalement, qui imposerait sa lecture sur une histoire, sur des personnages qui vivent en tant que personnage de leur âge, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent.
Et je crois que de toute façon, c'est le propre même de l'écrivain, d'être capable de se projeter encore dans l'autre, de retrouver la part d'enfant qui est en nous, les souvenirs qu'on avait, qu'on a par exemple de moments d'un premier émoi, ou de retrouver, de réactiver ces sentiments, de les faire revivre, et d'être ému soi-même, justement, par ça, par retrouvant ces sentiments-là.
Juste caser mon Madame Bovary, c'est moi, de Flaubert, ben, on peut dire Le Galou, c'est moi, Mirino, c'est moi, Jack, c'est moi. Voilà. Je pense que c'est effectivement quand on écrit, on devient ce personnage, on s'efforce de le devenir en tout cas.
Oui, on écrit, je pense que tu disais, on écrit, bon, on se rappelle un petit peu quand on était ado aussi, mais ça peut être aussi des fantasmes voilà, qu'on n'a pas pu, des choses qu'on n'a pas pu faire quand on était ado. On peut piocher aussi selon si on a des ados dans son entourage. Moi j'ai de la chance d'avoir des grands, donc là aussi piocher dedans. Et puis voilà, on peut pas rester sur un modèle parce que c'est pas possible. Il y a tellement, comme je disais tout à l'heure, tellement de différences que, mais c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je trouve même jouissif presque, parce que c'est, on peut piocher un peu partout, on peut essayer de s'identifier, il y a le fantasme derrière, enfin, c'est un mélange qui est génial.
Je vais te poser une question particulièrement à toi, parce que je crois que tu es la seule ici à faire des livres pour les plus petits.
Oui.
Ça demande une attention particulière, un exercice particulier d'écrire pour les quoi, 8 ans là.
Oui, c'est
quoi
les décisions de 8 ans, oui, c'est oui. À partir de 8 ans.
Libre et vivre, c'est de cela que je parlais tout à l'heure.
Est-ce que ça demande une attention particulière Alors, en fait, moi j'ai l'impression d'écrire une nouvelle. Évidemment, c'est simplifié. C'est parfois difficile parce que quand on est habitué à écrire pour les ados, grands ados, bon, ben, y a des propos qu'on ne peut pas non plus tenir. Là, il y a quand même vraiment certaines limites. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas un exercice si difficile que ça. Ça vient naturellement. Dès que je pense à une histoire, si je veux vraiment l'écrire pour un petit, j'ai l'impression d'avoir voilà, 7-8 ans. Et ça coule comme quand je racontais des histoires à mes frères et sœurs quand j'étais gamine.
Je m'excuse pour les autres de continuer avec toi.
Oui.
Mais quand tu écris comme dans Vivre une histoire de tolérance, de mort d'une sœur, etc., quand tu écris comme dans Libre une histoire de colonisation d'une planète, est-ce que ce sont des matières qui sont difficiles à faire passer pour des gens de 8, 9, 10 ans?
Ouais, c'est difficile parce que c'est par exemple le colonialisme, il est là, il est quand même sous-entendu, mais il est là. Le deuil, ça a été très très dur. J'ai eu peur de plomber l'histoire, donc du coup, je suis partie sur un petit texte très métaphorique, très poétique, pour que ça passe. Non, c'est même pas pour que ça passe. Je sais pas comment l'expliquer. Déjà pour moi la mort, alors je sais pas, peut-être que je vais choquer, mais pour moi la mort c'est la vie. Voilà, ça fait partie du cycle normal, donc c'est la vie, c'est pas beau, mais c'est là. Et il n'y a pas de raison d'en avoir peur, il n'y a pas de raison que ce soit tabou. Et encore moins pour les petits. Il y a énormément d'enfants qui perdent des êtres proches, que ce soit des frères, des sœurs, que ce soit des parents, des grands-parents, peu importe. C'est extrêmement difficile. Et donc pour moi, il faut que ça passe en douceur et voilà, tout en métaphore. Je sais pas si j'y suis parvenue. La nouvelle est triste et en même temps, elle est pleine d'espoir.
Elle y est parvenue.
Merci.
Victor, Eric et Jean-Luc, est-ce que vous savez quelle est la part dans ces bouquins, comme Imago pour Nathalie, est-ce qu'il y a beaucoup d'adultes qui lisent de la littérature jeunesse? Est-ce que vous avez une idée de la part? Je posais la même question ce matin à Kai Meyer, qui lui en vend quelques millions... dans le monde aussi, et il disait 30% à peu près. Il voit ça aux dédicaces particulièrement.
Vous avez une idée, en particulier ou en règle générale pour chacun de
vos livres? Pas pour chacun de vos livres, mais Est-ce que vous croyez que vous êtes lu aussi par des adultes et pas par des jeunes?
Moi, je suis sûr, en tout cas pour Lyadou, j'en suis certain. Hein, j'ai des lecteurs, ça s'échelonne de ceux que j'ai rencontrés en dédicace, c'est de 9 à 96 à peu près. Donc j'en ai un peu tous les âges. Après, pour dire exactement le pourcentage, le rapport, je ne sais pas trop, non. Mais il y a voilà, de tous les âges, ça, je pense. Donc, chaque personne a gardé quand même une capacité, je pense. Si les gens sont encore capables de rêver un peu, s'ils ont gardé une petite part d'enfance et de rêve, je pense qu'ils viennent sans aucun problème.
Oui, évidemment, il y a des adultes qui lisent des romans jeunesse. Bon, il y a quand même une majorité d'ados hein, qui lisent des romans, en tout cas jeunesse. Mais ça n'est pas rare du tout de voir des adultes en séance de dédicace et même un phénomène, je très intéressant, c'est les lectures partagées et les rencontres générationnelles autour de romans jeunesse, des parents et des ados qui lisent les mêmes livres et qui en discutent.
C'est effectivement quelque chose qu'on peut vraiment observer dans les festivals où les familles se déplacent souvent. Donc on a les enfants et les parents qui ont lu, qui ont échangé, qui ont lu chacun leur lecture, leur perception de l'histoire, et ça c'est extrêmement riche, parce que pour un livre, le fait de passer comme ça de main en main, c'est le plus beau destin. Et après, ce que les adultes viennent chercher dans la littérature jeunesse, je pense, c'est une certaine liberté, qu'il y a peut-être moins dans la littérature adulte, en tout cas la littérature blanche, plus de codes, moins de possibilités. Quand on ouvre un livre jeunesse, on sait que l'imaginaire peut décoller très loin, et je pense que c'est ça qui séduit de plus en plus les adultes. Ça a commencé sans doute avec Harry Potter, hein, qui reste le livre jeunesse qui a été lu par énormément d'adultes également, mais ça a ouvert des portes à tout un nouveau lectorat, il me semble.
Je pense aussi que les adultes aujourd'hui, quand ils étaient à la place de leurs enfants, quand ils étaient plus jeunes, ne disposaient pas d'un tel foisonnement de titres de choix. Et donc, c'est pas forcément revenir à quelque chose, mais c'est découvrir un univers auquel ils n'avaient pas accès à l'âge de leurs enfants.
Tu vois que tu es resté très jeune parce que tu as dit les adultes, mais tu en fais partie.
Moi je pense aussi que ça dépend ce qu'on met sous le terme littérature jeunesse. Moi, j'ai l'impression que maintenant le terme littérature jeunesse est en train de recouvrir un petit peu ce qu'on appellerait la littérature d'aventure en règle générale. Je me rends compte que certains éditeurs n'hésitent pas d'ailleurs à publier sous le label jeunesse des livres qui avant ça étaient classés en adulte. Et puis bon, il faut se rappeler quand même que par exemple Jules Verne n'a jamais été reconnu comme un auteur adulte. À son époque, on considérait que c'était de la littérature jeunesse. Donc est-ce qu'on classe sous cette étiquette littérature jeunesse, à qui ça s'adresse? C'est aussi quelque chose d'assez vaste et d'assez flou finalement.
Ouais, moi c'est ce que j'aime justement dans la littérature jeunesse par rapport à la littérature vieillesse. C'est en jeunesse, les adultes lisent, même très très vieux. Si on est publié en vieillesse, les ados vont avoir beaucoup plus de difficultés à aller vers ces livres-là, et déjà ils vont pas oser, ils vont avoir peur de s'ennuyer, ça va être trop long, déjà c'est des pavés souvent, je te dis pas. Et donc en vieillesse, on est lu par les adultes, hein, mais en jeunesse, on est lu, il y a un panel de lecteurs qui est extraordinaire. C'est ce que j'aime en littérature jeunesse, justement.
Et est-ce que c'est parce que ces adultes veulent retrouver une part de leur enfance, comme disait Eric, ou est-ce parce que c'est plus facile?
Est-ce que c'est une part plus facile? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, personnellement, hein, sur mes lectures à moi, c'est plus agréable de lire un roman jeunesse que parfois des romans vieillesse qui sont chiants, qui sont parfois des gros pavés, et il faut en jeter au moins un tiers parce que c'est gavant de description. C'est mon avis personnel de lectrice. Et voilà, c'est ce que je trouve plus intéressant en littérature jeunesse, c'est on va à l'essentiel et on y va. C'est plus rapide.
Quelque part, effectivement, je pense que les jeunes lecteurs sont plus exigeants par rapport à la qualité d'une histoire, de l'histoire en elle-même, de la caractère dramatique de l'histoire, que ça s'enchaîne bien, ça tienne en haleine, qu'on puisse pas s'empêcher de tourner la page. Si jamais à un moment le rythme retombe, il laisse tomber le livre sans aucun scrupule. Donc ça oblige les auteurs qui se destinent en priorité à ce public à travailler, à avoir des histoires vraiment très fortes qu'on retrouve moins systématiquement, c'est vrai, dans la littérature vieillesse, comme tu dis. qui est parfois enfoui sous des digressions, le fil se détend, on essaie de faire du style et on oublie l'histoire finalement.
C'est votre avis ?
Oui, alors après, littérature adulte, est-ce qu'on classe par exemple les ouvrages de fantasy et de science-fiction adultes dans la littérature adulte ? C'est encore oui. Autre chose parce que quand on écrit de la fantasy ou de la science-fiction adulte, enfin publié en tout cas dans des collections adultes, on est soumis entre guillemets aux mêmes contraintes qu'en littérature jeunesse, c'est-à-dire qu'on est obligé de raconter une vraie histoire. Dans la littérature adulte, dite blanche, dite littérature vieillesse, tout ce qu'on veut, c'est vrai que la plupart du temps, et malheureusement, beaucoup d'auteurs se cachent derrière leur style pour masquer l'absence d'histoire, en fait. Alors ça marche quand on est génial, mais tous les auteurs ne sont pas géniaux, et on sent parfois assez vite qu'il y a un manque, un vide, ou que l'auteur se regarde beaucoup. En jeunesse, ça, on n'a pas le droit, on ne peut pas. On s'efface derrière l'histoire, c'est l'histoire qui compte, et même si on veut faire du style, si on est content, etc., il faut se modérer, il ne faut pas que ça vienne parasiter, comme Victor disait, vienne parasiter le déroulé de l'histoire.
Alors là, moi, c'est vrai que, du coup, si tu veux, par exemple, au Galou, au contraire, là, j'ai essayé de développer un style de conteur, si tu veux, à la veillée, où j'ai par contre les gens qui viennent me dire, voilà, nous, on a adoré, parce que c'est une histoire, voilà, qui sort médiévale, mais la façon dont c'est conté. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un nous raconte l'histoire au coin du feu. Alors par contre, c'est vrai que le style, je suis sûr que tu es d'accord avec moi, c'est par contre, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui se travaille énormément. Les gens ont l'impression qu'en jeunesse, on va justement laisser tomber la façon d'écrire, voilà, on ne réfléchit pas à la manière dont on écrit, ou notre texte n'est pas écrit. Alors que c'est faux, ça oblige aussi à travailler énormément, bon, par exemple d'être simple, mais sans être simpliste. D'avoir quelque chose qui vraiment se tient et qui est quelque chose de particulier, ou une patte particulière, mais par contre, on est obligé d'être accessible, de garder une qualité de texte, mais en étant lisible par tous.
Vous écrivez différemment en jeunesse ou en adulte ? Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'expérience en adulte.
J'ai un roman qui va sortir l'année prochaine en adulte. J'écris comme j'écris. Oui. J'ai pas, c'est mon écriture, elle est comme ça, un peu au scalpel, je l'avoue, mais voilà, c'est comme ça. Et je ne fais pas plus attention. J'écris des nouvelles aussi pour adultes, mais la différence qu'il va y avoir, c'est que mes personnages vont être adultes. C'est tout. Les personnages principaux, pas.
Moi, je ne l'ai pas écrit encore pour les adultes, mais je pense que ce que vous apportez les uns et les autres vers la littérature jeunesse, c'est justement parce qu'on avait ce rapport aux histoires, parce qu'on voulait raconter des histoires avant de faire des effets de style peut-être gratuits, ce qui n'est pas, ça ne veut pas dire qu'on sacrifie pour autant le style. Donc, je pense que dans cette mesure, nous écririons de la même manière pour les adultes, effectivement. C'est notre rapport à l'écrit.
Même chose ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on va proposer comme question ? Est-ce qu'il y a... En fait, il y a des questions dans la salle, parce qu'on peut y aller, il y a encore un quart d'heure. N'hésitez pas à interrompre. Dites-nous ce que vous avez envie de savoir. Moi, j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour. On peut encore poser, je suppose, des questions sur... quand on parlait des valeurs, parce qu'il n'y a pas de doigt qui se lève, non ? Quand on parlait de valeurs... Éric a parlé de loyauté, de responsabilité, d'amitié, etc., d'honnêteté. Nathalie parle beaucoup, elle, de tolérance, de regard vers l'autre et d'acceptation de l'autre. C'est quelque chose qui est, chez toi, très au centre de ce que tu fais. Mais ça, c'est pensé avant. Mais tu ne structures pas ton histoire autour de ça. Tu sais quelle histoire tu vas faire, et tant mieux si le thème... se mettre dedans.
Tout à fait. Et moi, mes personnages, de toute façon, les personnages adolescents qui me viennent, ils sont déjà... Enfin, avant de commencer à écrire une histoire, j'ai besoin de les apprivoiser, j'ai besoin qu'on ait confiance les uns envers les autres, j'ai besoin de les comprendre, les apprendre, de savoir comment ils vivent. Voilà, et c'est pour moi, c'est la même chose dans la vraie vie. C'est un respect, il y a une tolérance, il y a un amour de l'autre aussi, l'envie d'aller vers l'autre, de le découvrir. Et ça, c'est toujours dans mes bouquins, ça. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je ne peux pas écrire autrement.
Jack Sparks, c'est un ensemble de livres pour les jeunes, c'est une édition jeunesse. Ça n'empêche pas, ça ne vous empêche pas de parler de, je sais pas, la crise financière, de l'hiver nucléaire, de la révolte et des insurgés dans le dernier tome.
Oui, effectivement, je pense que c'est pas parce qu'on écrit en jeunesse qu'on doit, là pour le coup, se censurer par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et que les jeunes ressentent et expérimentent au même titre que les plus âgés. Pour rebondir sur ce que disait Nathalie, c'est vrai que la tolérance, il y avait un thème aussi qui me parlait et qui, sans que j'ai voulu forcément le travailler, a priori, je me rends compte qu'il imprègne complètement cette série de Jack Sparks, c'est la tolérance, effectivement. Moi, mes personnages sont des personnages qui ont tous été rejetés, pour une raison ou pour une autre, par leur milieu, qui finalement ont intériorisé ce rejet, donc qui ne s'acceptent pas eux-mêmes. Donc on est dans une spirale vraiment destructrice. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que finalement, la tolérance vis-à-vis des autres et vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est le moyen de se réaliser. Et on rejoint là la question des valeurs, c'est de cette manière qu'ils vont comprendre quelles sont leurs valeurs et les construire.
Le moyen de s'accepter soi-même aussi pour votre enfant monstre.
Le moyen de s'accepter soi-même, puis d'accepter les autres. Et puis il y avait aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, mais on en avait parlé tout à l'heure avec Nathalie. Mais or, quand on était à notre table, par exemple, moi je sais que ce qui est très important et normal, c'est entre autres de rester entre mes femmes. L'égalité entre mes femmes, qui est quelque chose de très important et quelque chose dont on doit parler. Je pense que c'est pas à des gens de 60 ou 70 ans qu'on va expliquer ça. C'est quelque part, c'est trop tard. C'est pas fait. C'est pour ça que ce genre de, pardon, les valeurs, etc., de tolérance, de respect de l'autre, peut-être voilà, c'est aussi important. Nous, on les met en écrivant nos livres dans la littérature jeunesse ou ce genre de choses, parce que aussi, peut-être que c'est finalement plus utile là que sur la littérature de jeunes, je ne sais pas.
C'est vrai qu'on a discuté, j'ai un petit côté féministe, pas extrémiste, mais féministe, parce que voilà. Par contre, je vais être un tout petit peu plus subtil. Pour moi, ce n'est pas l'égalité, c'est la complémentarité.
Oui,
c'est
bien sûr.
Voilà.
C'est aussi quelque chose qui me parle, pour reprendre le dernier livre de la série, Le Printemps humain. On est dans une société, on a deux espèces complètement différentes qui coexistent, les humains et les fées, qui sont des créatures surnaturelles, qui ont des besoins énergétiques particuliers. Et effectivement, quand on essaie de tendre vers l'égalité absolue entre ces deux espèces, ça colle plus, ça devient un extrémisme. Et ce qui compte, c'est la complémentarité, l'équité qu'il peut y avoir entre ces espèces. Alors on peut y voir une métaphore, mais c'est vrai que dans la vie, les êtres humains sont différents. C'était un des thèmes, je crois, de cette table ronde, tous différents, tous égaux. Moi, je n'étais pas forcément à 100% d'accord avec ça. Je pense que c'est tous différents dans l'équité et dans la tolérance. Pas forcément une égalité au cordeau imposée à tout le monde.
Je ne parlais pas d'égalité au cordeau. Non.
Oui, bien sûr. Voilà.
C'est vrai que j'avais oublié le titre générique. C'était tous différents, tous égaux. J'étais resté sur les valeurs. Tous différents, tous égaux. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, Eric ? Donc, on a entendu les remarques sur les mots.
Mon personnage, Jasper, aurait dit « Ouais, on est tous différents, on a tous un ego. »
C'est joli, ça.
Est-ce qu'on pourrait dire quelque chose de mieux que cela pour terminer ce débat, hein? Voilà. Il est moins 10, à moins que vous ayez des questions dans la salle. Et n'hésitez pas, je vous en prie. Sinon, il reste à votre disposition 10 minutes encore. Puisque c'est jusque normalement jusqu'à 18h.
J'aurais une question.
Oui, ben certainement.
Voilà, de ce que j'entends, c'est la différence entre l'écriture pour les jeunes et les ados et les anciens, enfin les vieux, comme vous dites, c'est des limites, comme Eric a parlé, de la sexualité, donc on ne décrit pas ou juste la main. Donc ça serait la limite. Et la question que je me pose, c'est quelle est la place du conte quand on sait que Le Petit Prince n'avait pas été édité en son temps par l'auteur, parce que ça a été écrit notamment. Quelle est la place du conte dans tout ça? Quelqu'un qui a écrit des contes aujourd'hui, est-ce qu'il a édité en jeunesse ou est-ce qu'il a édité?
Ça dépend du conte.
De toute façon, normalement, les contes, au départ, n'étaient pas destinés aux enfants. Les contes étaient destinés aux adultes. Vous lisez les contes d'un Christian Andersen ou même la version du Petit Chapeau Rouge, la vraie version du Petit Chapeau Rouge, il ne faut pas la donner entre les mains d'enfants. C'est vraiment, il y a quelque chose quand même qui est très, très, qui est très fort. Et voilà, on s'est approprié les contes après parce que voilà, les animaux parlent, parce qu'il y a une morale, parce qu'on s'est les approprié en jeunesse, mais normalement au départ c'est dessiné pour les adultes. Alors maintenant, aujourd'hui, où sont publiés les contes, c'est une bonne question. Ça, j'en ai aucune idée.
Je pense que ça dépend du contenu du conte aussi. Le conte, c'est une forme littéraire particulière. Après, je pense au conte cruel de Villiers-Villadon, c'est vraiment pas jeunesse. Ça dépend après du contenu qu'on met dedans. Hein. Il me semble.
Il faut demander ça à Marie-Charlotte Delmas, hein, qui est la spécialiste du conte, et qui vous répond. Enfin, il y a des collections où on édite encore des contes, mais la plupart du temps, ce sont des contes retrouvés, des contes qui se narrent encore, qui se racontent au coin du feu, si ça existe encore, de temps en temps.
Moi, avec Hugalou, je m'inscris dans la tradition des contes, justement, de ces contes à la veille. J'ai essayé, justement, de réutiliser des contes, on va dire, de France, mais par contre, en leur donnant... dans un Moyen-Âge alternatif, en liant tout ça un petit peu, mais j'essaie vraiment de retrouver ce ton du conteur, l'histoire du Galou. Parce que les contes, en fait, on parlait de la place du conte, le conte se transforme, de toute manière, il n'est pas figé. C'est ce que je reproche des fois un petit peu au folklore, c'est de dire, voilà, on va noter ces contes de manière figée, mais en fait, nous, ils ne sont pas figés, ils se transforment au fil des générations. Nous, finalement, ce qu'on fait, les histoires qu'on fait, sont notre forme de conte aussi. Les collègues aussi, même si c'est pas sous la forme du conte traditionnel.
On pourrait se demander si les légendes urbaines ne sont pas la forme moderne du conte. Ces histoires qui sont dans l'oralité, qu'on se répète, les crocodiles dans les égouts de New York, et ainsi de suite, on retrouve le monstre, la dévoration, c'est le conte moderne peut-être.
Oui, à propos du conte, j'ai tout simplement un exemple, une anecdote, parce que j'ai transcrit des contes que j'ai recueilli dans une société traditionnelle orale dans les montagnes du nord Pakistan, c'est le Conarion perdu. Ce sont des contes pour deux d'entre eux, en tout cas il y en a trois, pour deux d'entre eux ce sont des contes adultes, enfin, que les adultes se racontent et même se chantent puisque c'est toujours accompagné d'instruments, et je les ai transcrits, etc. Et ils ont été publiés dans une collection de jeunesse en France, parce que de toute manière, nous ne sommes plus, je pense sincèrement, nous ne sommes plus une société capable de comprendre les contes tels qu'ils étaient avant, puisque aujourd'hui il y a prédominance de l'écrit. Et figer un conte sous la forme écrite, c'est déjà un contresens, puisque le conte, il est oral, il évolue, chaque personne s'en empare, le transforme, apporte quelque chose. Donc je pense qu'il nous manque maintenant des clés pour comprendre et inclure les contes dans notre tradition. Je dirais que les conteurs de maintenant, ce sont les romanciers. Ce sont ceux qui racontent des histoires en les écrivant sous forme de romans. C'est une réflexion personnelle.
Pour la jeunesse, parce que ce sont les seuls qui sont encore capables de comprendre. Bon, merci Nathalie, merci Victor, Jean-Luc et Eric. Merci à vous d'avoir été là et de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Merci.